Bienvenue dans ce troisième module où on va parler des différents moteurs de rendu et comment gérer une partie des problèmes de compatibilité à ce niveau-là. Donc, comme on l'a dit sur le module précédent, on a fait pas mal de changements entre IE 6 et IE 8. Et le premier, un des majeurs au niveau de IE 8, c'est l'utilisation d'un nouveau moteur de rendu très compatible avec les standards actuels que sont CSS 2.HTML4.
Quand tu dis très compatible, on peut même dire que c'est probablement le plus compatible.
Alors,
On risque de choquer peut-être des gens
c'est un
là-dessus.
sujet dangereux. On a beaucoup travaillé sur la création de jeux de tests unitaires pour valider les spécifications. On en reparlera certainement dans la partie HTML5. C'est relativement compliqué de créer des spécifications, mais c'est encore plus de les implémenter sans faire des erreurs d'interprétation, en fait. Pour éviter de faire des erreurs d'interprétation, il faut des jeux de tests unitaires qui vont permettre, en fait, aux éditeurs de navigateurs de regarder comment leur navigateur se comporte sur un test unitaire. Et si deux navigateurs passe le même test unitaire de la même façon, on peut se dire sereinement, bon, manifestement, désormais, la spec est suffisamment claire pour que tout le monde s'appuie dessus.
Oui, c'est-à-dire que dans la spec, on va donner le comment
Un petit peu de la théorie,
on explique on
finalement,
explique la
avec
fonctionnalité, hein, et le jeu de test, c'est pour vérifier effectivement
que cette fonctionnalité seront de la même manière sur tous les navigateurs.
voilà, a bien été implémenté techniquement parlant.
Pour répondre au doux rêve qui n'arrivera certainement jamais du markup qui tourne sur tous les navigateurs, mais globalement, ça va permettre quasiment ce rêve d'arriver, sachant qu'il y aura toujours, malgré tout, hein, des petits tweaks à faire, mais on essaye de les éviter au maximum avec ce process-là.
Le but d'avoir un langage de balise, le fameux markup HTML qui soit vraiment le même sur tous les navigateurs, effectivement, c'est pas une utopie parce que on essaie quand même tous les acteurs du marché
Y travailler.
de travailler ensemble sur le sujet. Mais l'idée, clairement, est de limiter la différence entre le navigateur X et le navigateur Y, simplement pour éviter que les webmasters passent beaucoup de temps, ce qu'ils font aujourd'hui, on le sait, malheureusement. Et ça évoluera dans les prochaines années, peut-être les 10 prochaines années, voire plus, c'est d'éviter d'avoir à faire des conditions de test conditionnel au chargement des pages pour vérifier qu'on est sur le navigateur de la marque XZ ou Y, dans la version XZ ou Y, là encore.
Alors, on est détesté à juste titre par cette population-là avec IE 6, IE 7 un peu moins, mais toujours. IE 8, on a vraiment repris en main ce sujet-là. Et IE 9, on continue dans la bonne lancée. Je pense que tout le monde est content que Microsoft reprenne sérieusement le sujet en main. Du coup, malgré tout, pour éviter de se mettre à dos quand même nos clients entreprises qui ont fait le choix d'Internet Explorer, c'est dans la culture de Microsoft de garder une compatibilité, d'aider nos clients à avoir un chemin de migration relativement léger, enfin le moins coûteux possible. Pour cela, on intègre trois moteurs de rendu dans IE 8 et quatre dans IE 9, on en reparlera. Le moteur le plus compatible avec les standards qu'on appelle donc le mode standard, du coup, qui est celui qui est activé par défaut. Le moteur tel quel d'IE 7, donc si vous avez qualifié vos applications finalement sur des machines Vista avec IE 7 et qu'elles fonctionnent bien, vous aurez la garantie qu'avec un IE 8, au pire des cas, vous pouvez forcer ce moteur pour que ça fonctionne de la même manière. Et le mode le plus ancien, qu'on appelle le mode Quarks, qui est équivalent, alors que je mets équivalent à celui de IE 5, 6, il est plutôt proche de celui de 5, mais c'est le plus proche d'IE 6. Malheureusement, ce n'est pas celui d'IE 6 tel quel. Alors souvent, les gens nous demandent en rendez-vous client, mais pourquoi vous n'avez pas mis le moteur tel quel d'IE 6 et j'aurais été sauvé. C'était la fin de mes ennuis. C'est une bonne question, je ne sais pas, je n'ai pas fabriqué Internet
voilà.
Explorer.
Donc, effectivement,
donc c'est une question qu'il faudrait poser au groupe produit. Mais c'est le mode qui intéresse le plus, malgré tout, la plupart des gens, lorsqu'ils font des tests de compatibilité, il peut vous résoudre pas mal de soucis.
Sachant que, alors c'est vrai que là on n'est pas toujours très clair sur la version 5, 5, 6, fondamentalement ça ne doit pas changer grand-chose parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas eu de clients qui nous ont dit le comportement n'est pas exactement le même quand je suis dans le mode Quarks versus un navigateur en IE 6. Donc je pense que globalement, si les équipes ont fait ce choix-là, il doit y avoir des raisons derrière qui sont relativement bonnes ou en tout cas qui permettent de gérer de manière relativement tranquillement
Mais
le rendu.
tu as raison, toujours est-il, c'est que moi je tiens à préciser que ne pensez pas que ce mode va forcément vous résoudre vos problèmes et que si ce n'est pas vrai, il va résoudre une partie des problèmes lorsque vous allez le tester. Alors, c'est quoi la démarche? Vous installez un IE 8, vous testez vos sites, il tourne tel quel dans le moteur le plus récent, tant mieux. Il ne tourne pas tel quel, vous allez tester, on va le voir, vous pouvez piloter les moteurs de rendu et tester un des moteurs. S'il tourne dans IE 7, vous allez forcer le moteur d'IE 7. S'il tourne dans le mode le plus ancien, vous allez forcer le moteur le plus ancien. Comment ça se fait? Ça se fait relativement simplement avec une balise méta qu'on voit ici sur le slide qui va vous permettre de dire, lorsque IE 8 arrive sur votre site web, j'ai testé mon site, il fonctionne bien avec le moteur de rendu d'IE 7 ou d'IE 6, vous le forcez. Vous forcez IE 8 à prendre ce moteur-là. Il y a des modes aussi, il y a tout un workflow qui permet de le mettre en place. Au niveau de l'entreprise, on en reparlera. C'est pilotable également à travers des GPO, ce qui vous permet de ne pas du tout toucher au site qui est en production, mais uniquement à travers des GPO, de dire, bah, voici la liste des 10 sites de mon intranet qui marchent bien uniquement en IE7 ou dans le mode Quarks, et de forcer à travers une GPO à distance, sans toucher du tout au site en production.
Petite question peut-être sur la liste Meta, est-ce que c'est du propriétaire ou est-ce que c'est quelque chose qui est relativement standardisé?
Alors, le W3C prévoit justement la possibilité d'utiliser ce genre de choses pour... un peu de custo pour chacun des acteurs. Donc, c'est ni vraiment propriétaire, ni vraiment standardisé. C'est justement une marge de manœuvre qu'on laisse aux différentes personnes. Google l'utilise de temps en temps. Tout le monde utilise un peu ses balises Meta pour ce genre de choses.
Donc, on n'est pas allant sur le propriétaire, mais sur un usage qui était prévu par le W3C pour pouvoir éventuellement avoir une certaine marge de manœuvre.
Voilà. Donc, pas spécifiquement pour piloter un moteur de rendu, mais justement pour laisser un peu de souplesse là-dessus. Donc, c'est pas très grave. Hein. Si vous le mettez, qu'un Firefox arrive ou un Chrome arrive sur votre site, ça va pas tout casser le rendu. C'est juste destiné à, si tu as un IE8 que tu arrives, sache que j'ai envie d'utiliser ton moteur IE6. Donc, c'est pas très grave. Alors voici la matrice de compatibilité qui peut parfois faire peur. Il faut juste retenir que dans ces trois moteurs, vous pouvez les forcer directement pour avoir les tester. Vous pouvez laisser Internet Explorer essayer en fonction de son moteur, de son algorithme, de trouver celui qui est le mieux, plus adapté pour vous, en fonction du workflow qui va suivre. En gros, il va tester la présence de la balise Doctype ou pas. Donc s'il n'y a pas de balise Doctype, on imagine que c'est un vieux code HTML qui est en place. Donc on bascule automatiquement dans le mode le plus vieux. Et il y a un mode qu'on appelle Edge, que j'ai vu une fois, je crois, hein, sur un site, qui consiste à dire je fais confiance à Microsoft, je veux toujours utiliser la dernière version. Donc typiquement, si vous avez qualifié sur IE8 et que ça passe en IE8, dès que vous allez installer IE9, il va automatiquement basculer sur la prochaine version.
Est-ce que c'est la bonne option de prendre le...
À terme, on n'aura normalement plus besoin de spécifier un moteur de rendu particulier, puisque une fois qu'on aura passé IE8, IE9 et les prochaines versions, on est quand même maintenant particulièrement propre avec les standards. Donc une fois que vous aurez qualifié votre site avec IE8, vous pouvez faire confiance aux prochaines versions de navigateur, ça ne devrait pas casser. Malgré tout, je ne recommande pas de faire confiance aveuglément au prochain moteur. Il se peut qu'il y a toujours un petit problème de rendu, on ne sait jamais, un bug de rendu, donc ne le faites pas.
Alors ça ressemble à quoi un site web dont le rendu n'est pas bon?
Alors ça ressemble à ça, très bon enchaînement mon ami, c'est normalement, si ce site-là, vous ne connaissez pas la bonne version, c'est que le menu est censé se présenter à gauche, et donc typiquement, là la feuille de style qui gère justement la mise en page, je vous rappelle que le markup HTML est là pour décrire le contenu du site et le CSS, la façon de le mettre en forme. Et bien typiquement, là manifestement la feuille de style avait été prévue pour bien fonctionner sur un IE6, IE8 arrive et ne l'interprète pas de la même manière. Je vous disais, les spécifications, hein, IE6 s'en moquait un petit peu et IE8 a fait un gros boulot. Donc pour lui, IE8, il l'interprète de cette manière-là. Par contre, fonctionnellement, c'est un peu bizarre. Donc l'utilisateur peut être soit dérouté, soit ça casse un peu tout.
C'est déjà arrivé à ta femme sur des sites de cuisine d'avoir
c'est déjà arrivé ce genre de choses, parce que là, c'est assez simple. On voit quand même l'ensemble de l'écran, mais des fois, bah, une partie de l'information intéressante se retrouve tout en bas de la page. Ouais. Et elle, forcément, comme tout utilisateur classique, râle en disant « je comprends pas ce qui se passe ». C'est la feuille de style qui est, on va dire, cassée.
Alors, c'est pour ça peut-être qu'il y a un petit bouton également qui existe dans...
qui est tout là-haut, effectivement.
Et qui a été bien conçu par des gens qui sont des technophiles et qui n'ont pas pensé que les utilisateurs standards ne savaient pas ce que ça voulait dire.
Bah oui, bien sûr. Justement, il s'adresse à ma femme à travers ce bouton en disant « Chère Madame Rousset, si vous avez un souci de rendu CSS suite à la mise à jour de votre navigateur, il suffit de cliquer sur la feuille de style cassé pour essayer de résoudre le problème. » Donc bien sûr, vous imaginez bien que personne ne connaît ce genre de truc. Donc c'est quand même un relatif échec. Sachant que nous, on utilise le fait de cliquer sur ce bouton pour remonter par télémétrie, manifestement le site public Intel propose des soucis et nous on gère une liste, on va en reparler, de compatibilité pour justement automatiquement demander à Internet Explorer 8, je sais qu'il y a un souci parce que Madame Rousset a cliqué 22 000 fois sur le bouton de compatibilité, elle s'énerve, bascule-le en mode automatique la prochaine fois. Alors comment rendre un site compatible IE8? La première étape consiste à forcer le moteur avec la balise Meta. Vous n'avez pas forcément envie de le faire sur toute votre page web, vous pouvez vous dire « non, je vais le faire sur tout mon site ». Alors c'est bien évidemment possible sur IIS à travers le web.config, hein, qui sont connus par les gens qui travaillent sur IIS, ou un Metaswitch sur Apache, vous allez renvoyer à chaque fois le header qui correspond bien.
Donc, une modification à faire en centrale sur le site web ou sur le serveur web globalement.
Voilà, et ça va impacter les applications qui tournent dessus, à vous de voir comment vous allez découper ensuite la mise en place des différentes applications sur les différents serveurs. Strategy Group, alors c'est quand même la force d'Internet Explorer, hein, c'est sa possibilité d'être administrée de manière centralisée. On peut forcer en mode de compatibilité 7 et on a oublié de corriger la slide. Parce
Exactement.
Qu'en fait, on a fait ce tour la première fois et les gens nous disaient c'est super la GPO, ça m'évite du coup de toucher à mes serveurs, ça me coûte moins cher, je prends pas de risque. Par contre, moi, c'est plutôt le mode Quark qui m'intéresse. Et gros problème, le groupe produit n'avait pas pensé à ça. Et ils se sont dit non, on avait pensé au mode IE7, mais le mode Quark, on peut pas le forcer à travers GPO.
Eh bien si, maintenant on peut le faire parce qu'on les a tellement kikinés. On leur a mis un peu la pression sur ce coup-là. Alors ça marche pas toujours, mais sur ce coup-là, on en est un peu fiers. Et donc ils nous ont fait une mise à jour, qui est donc dont le lien de téléchargement est disponible sur notre blog, donc blogs.msdn.com/IEFrance. Et donc effectivement, cette mise à jour permet désormais, via stratégie de groupe, de piloter le moteur et de dire... toi, sur le sur tel utilisateur ou telle machine, tu vas avoir ton navigateur dans le mode Quarks.
Sur tel domaine. Alors, l'autre stratégie qui plaît peut-être moins, mais peut-être ça peut faire partie ensuite de votre politique actuelle.
Je pense que c'est, à mon avis, même plus viable d'utiliser cette deuxième option.
Oui, elle coûte potentiellement plus cher parce qu'il faut former les gens. C'est de revoir ensuite le HTML, le CSS que vous étiez actuellement pour être au plus proche des standards CSS 2.1. Ça vous donne quoi, du coup, comme liberté, je vous le dis, en toute franchise. Le fait que vous soyez très compatible avec les standards, et donc ça va passer tel quel dans le nouveau moteur d'IE8, ça vous permet éventuellement de vous affranchir aussi d'Internet Explorer. Si vous voulez faire fonctionner très bien sur un Chrome ou un Firefox, ça fonctionnera également très bien.
Sachant qu'on parle ici de pur web, de rendu. Là, on est pour l'instant que sur la partie cosmétique, la partie application, on va le voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça.
Alors, pourquoi, finalement, on le voit peu en entreprise? Tout simplement, c'est pas si simple que ça d'être bon sur le respect des standards, parce que il faut se palucher un petit peu tout ça, c'est pas mal d'expériences de bonnes pratiques, et puis ça implique de revoir entièrement le site. Donc autant sur les nouveaux sites, là la plupart des entreprises sont prêtes à faire le pari d'investir là-dessus, refondre un ancien site ça coûte cher, et le problème c'est que c'est souvent dans les phases de migration, on bascule pas d'un seul coup tout le parc de IE6 à IE8, ça se fait progressivement, et donc si on met à jour l'application pour supporter les standards, les nouveaux utilisateurs qui ont IE8, tant mieux pour eux, mais ceux qui restent en IE6 pendant ce temps-là ne pourront potentiellement pas très bien y accéder.
Du coup, comment je fais pour savoir si sur mon navigateur IE, je suis dans le mode de rendu 1, 2 ou 3, visuellement, est-ce que l'utilisateur a la possibilité en fait de le voir tout simplement?
Oui,
plutôt bien donc.
Plutôt bien. Alors c'est le but du slide suivant. Lorsque vous appuyez sur la touche F12 dans Internet Explorer 8 ou Internet Explorer 9, vous avez la barre de développement qui s'affiche, un petit peu notre équivalent de Firebug, qui s'enrichit au fur et à mesure, qui est très très bien dans IE9, qui était déjà bien dans la version 8, que j'utilise fréquemment pour développer désormais. Et là, pour le non-développeur, vous avez dans la partie finalement compatibilité la possibilité de voir quel est le moteur actuellement utilisé par Internet Explorer 8 pour cette page-là. Là,
sur cet exemple-là, on voit... Pour le non-développeur qui est quand même informaticien, parce qu'on est quand même sur une partie technique, qui n'est pas censé concerner, on va dire...
Madame Michu, la fameuse Madame Michu, qui prend cher également lors des démonstrations. Et donc là, on voit que typiquement, c'est le moteur d'IE7 qui a été sollicité par le site web. Alors... De quelle manière? Soit si on entreprise par GPO, soit il l'a basculé en MetaTag. Sur Amazon, si vous faites le test aujourd'hui sur Amazon.fr, alors peut-être que lorsque vous regardez ce webcast, ils l'auront changé, mais eux, ils sont en mode Quarks, en enlevant la balise Doctype, parce que certainement, ils doivent avoir pas mal de gens qui viennent encore avec de l'IE6. Ils peuvent pas se permettre de dire aux gens, si t'as un IE6, tu n'achètes rien chez moi. Voilà. Ils ont besoin de garder tous les utilisateurs.
Sachant que la balise Doctype, en fait, la plupart du temps, on ne la saisit jamais. C'est-à-dire qu'on a fait un copier-coller d'une existante, parce que c'est toujours la même, mais que la chaîne est relativement longue, enfin en tout cas en HTML 4.0.1, et que cette balise Doctype, heureusement, dans HTML 5, va vraiment se simplifier.
J'aime bien quand tu fais le malin sur HTML 5.
Donc c'est vrai qu'il faut reconnaître que la balise Doctype en HTML 5 est relativement simple, vu qu'on met juste le code
Doctype. Point d'exclamation
Doctype, ouais. Voilà, à la place de mettre toute la chaîne de caractères qui est relativement longue. Tu vas nous en montrer une peut-être tout à l'heure, pour nous montrer à quoi ça ressemble, une balise standard, entre guillemets, sur les standards actuels qui sont le 4.0.1.
Si t'es sage, HTML 4.0. Si t'es sage. Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur ce site, ils l'ont mis avec un MetaTag pour forcer le moteur IE8. Alors, ça nous permet, là, ça vous donne le site qui est corrigé. Voilà un problème de moteur de rendu qui peut vous arriver, là, dans finalement les 13%. D'ailleurs, dans 60%, vous n'aurez pas ça. Dans 13%, vous aurez des soucis de cet ordre-là à résoudre. Dans la plupart des cas, vous aurez la chance d'utiliser un autre moteur. Alors, les trois moteurs ne vont pas résoudre 100% des problèmes de rendu. De temps en temps, il faudra mettre un peu la main dans le CSS, le HTML pour corriger l'ensemble.
D'accord. Finalement, qu'est-ce qu'on a comme moyen finalement pour évaluer ces différents rendus? Donc j'ai vu effectivement la touche ici. Est-ce qu'on n'a pas d'autres éléments, d'autres outils hein?
Soit effectivement on utilise la touche magique F12 IE8 et on teste manuellement le moteur en priant pour qu'il y en ait un qui corrige le problème et hop, on le déploie avec la balise méta. Je conseille malgré tout d'utiliser des machines virtuelles pour valider définitivement le support du site et la mise à jour sur des vrais OS avec le vrai moteur.
Oui, parce que c'est qu'on parle d'IE8, mais ça vaut le coup de tester IE8. Ben, dans ce cas-là, on peut avoir le cas d'entreprise, on a de l'IE8 sur Windows XP, sur Windows Vista, sur Windows 7. On peut également avoir des IE en fonction des langues, vérifier que le comportement se passe bien également.
Voilà, donc c'est dans les bonnes pratiques. Heureusement, j'ai jamais vu de cas. Il se trouve que quand on passe IE8 en rendu sur XP, vous êtes quasiment sûr, jamais eu en fait de remontée. Hein, mais normalement, on nous a garanti que c'était le même moteur de rendu entre IE8 XP et IE8 sur Windows 7. Donc une fois que vous faites le travail finalement de migration entre XP IE6, XP IE8, c'est une grosse partie du projet de migration que vous avez fait pour XP d'une manière générale vers Windows 7.
Exactement, parce qu'une grosse partie des applications aujourd'hui en entreprise sont non plus des applications Win32 localisées sur le poste de travail, mais sont des applications type intranet. Alors, plus ou moins web, là, on va en parler dans le prochain module sur les ActiveX qui ne sont pas forcément du pur web, mais globalement aujourd'hui, la majorité des applications métiers sont des applications qui sont sous les serveurs, sous la forme d'applications intranet web. Voilà.
Alors, on a un autre outil qui plaît beaucoup lorsqu'on l'a montré, qui s'appelle Super Preview, qui existe dans deux versions. Une version gratuite, qui plaît encore plus, parce qu'elle est gratuite, hein, qui permet justement de comparer les différents moteurs de rendu entre IE6, IE7, IE8. Donc, souvent, les gens, en fait, utilisent plutôt entre IE6 et IE8. Et on va voir, il est sympa de vous faire une démo derrière. Ça permet de voir par transparence les différences de rendu.
Je m'aperçois qu'on n'a pas fait la mise à jour, parce que dans l'expression Web3, donc la version payante, enfin, inclus dans l'outil qui est un outil payant, on a effectivement le moteur de rendu de Firefox, on a également le moteur de rendu de Safari sur Mac. Enfin, ça, tu vas nous montrer dans la démonstration.
Parce que moi, j'ai la version 4. Entre-temps, la version 4 a rajouté le support, effectivement, de Safari en version cloud. Il faut mettre le mot cloud un peu partout.
Ça fait déjà trois fois qu'on le dit.
Oui, ça fait déjà trois fois qu'on le dit. Et supportera également plus tard, j'imagine, IE9, même si aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, je vous propose une démonstration juste après. Alors là, vous avez un lien, si vous voulez récupérer des machines virtuelles toutes faites avec les différentes versions d'Internet Explorer pour faire vos qualifications d'applications.
Voilà, donc clairement ici, l'idée était de vous faire gagner du temps en fait sur le montage et l'installation de ces machines virtuelles. On sait que vous allez pouvoir en installer vous-même. Maintenant, il faut retrouver des CD, etc. Donc, à partir du moment où vous avez une bande passante, on va dire, suffisamment correcte, globalement, on vous a packagé. Alors, c'est en anglais uniquement aujourd'hui, mais on a packagé différents versions de navigateurs sur différents OS. Donc, on a IE6 sur XP SP3, IE7 sur XP SP3 aussi, IE8 sur XP SP3, IE7 sur Windows Vista, IE8 sur Windows Vista, et donc sur Windows 7, on a déjà des images en téléchargement nativement de démonstration de Windows 7 qui inclut nativement IE8.
Alors la démonstration, pilotage et moteur de rendu, alors je vais vous le faire moi sur ma machine qui a IE9, sachez que c'est exactement la même façon avec IE8 et je vais vous montrer Super Preview. Donc je vous montre sur ma machine IE9, dont on parlera un peu plus tard. Si vous appuyez sur cette fameuse touche F12, forcément, moi j'étais avant sur mon écran à la maison en full HD, donc il faut juste essayer de se concentrer pour réduire la barre. Voilà, je vais la docker. On voit ici le moteur qui est retenu. Sachez que si vous avez IE8, ça va s'arrêter ici. Là, vous n'aurez que les trois premiers. Donc je vais refaire ça, c'est un peu sale. Voilà, donc que les trois premiers. Et avec IE9, vous aurez le nouveau moteur compatible, on va dire, qui inaugure le support de HTML5.
Pour ceux qui auront l'habitude, vous l'aurez compris avec les raccourcis, Alt-Q vous bascule automatiquement en mode Quarks, Alt-7 en version moteur IE7 et Alt-8 en moteur IE8.
Ça t'arrive souvent, tu fais souvent ça, toi.
Mais non, jamais, parce que moi, je suis à IE12.
Et donc, typiquement, imaginons que vous auriez sur Bing et votre site, et vous apercevez qu'il y a un problème de rendu, ce qui n'est pas le cas, vous pouvez dire, je vais tester le mode Quarks et regarder si ça a changé quelque chose. Déjà, on voit, je crois que ça a changé le positionnement de ces boutons-là. Et si ça correspond à la solution que vous cherchez, vous allez pouvoir forcer le mode Quarks ou forcer un des autres moteurs. Donc là, c'est le cas de Bing. Si on va sur Amazon, je vous parlais d'Amazon, que je vais réutiliser dans l'exemple suivant avec Super Preview. C'est le souci quand vous ouvrez la barre de développement, de temps en temps, vous ne savez pas laquelle barre est liée à quelle fenêtre et tel onglet. Donc moi, dans le doute, je fais ça. Donc là, on voit bien, c'est bien ce que je pensais, que Amazon reste sur le mode Quarks. Ça lui permet de supporter IE7, IE8, IE9 dans ce mode particulier. Et c'est le plus proche d'IE6, donc ils n'ont certainement quasiment pas de boulot à faire pour supporter IE6. Il faut encore leur demander.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas de doctype sur leur page d'accueil, en fait.
Exactement. Si on regarde le HTML qui est ici, tu vois que ça commence directement par la balise HTML, comme on le faisait il y a longtemps.
D'accord.
On ne précise pas de doctype.
Tu pourrais nous montrer ça sur, mettons, un moteur de recherche. Comment se comporte un moteur de recherche avec la ronde de tag? Est-ce qu'on la voit, le doctype, dans la barre F12?
Dans la barre F12, précise ta question.
tu pourrais nous montrer le fameux doctype qui est très long en HTML 4.0.1 versus HTML5.
Ah, d'accord. Donc on va voir sur quoi je pourrais le voir. Peut-être sur Bing, il doit y être. Il est là-haut, c'est celui-là, tu vois.
Voilà.
Il est tout là-haut, donc si on regarde le source, le voici.
Voilà. Donc, effectivement, il est relativement long, et il descend jusqu'à char7, voilà.
Il est relativement verbeux. Si on prend une application que j'ai faite récemment en HTML5 ici, qu'on regarde le source, voilà, il est beaucoup plus léger.
Ouais, ça c'est une des bonnes choses faites par les standards, celle que le W3C, c'est effectivement de simplifier ce doctype et de dire à partir de la version 5 et plus,
ouais,
on n'aura plus à préciser des chaînes de caractères.
Ça assure une rétrocompatibilité, ce qui est important avec HTML5. Alors là, vous avez montré F12 qui va vous permettre de voir quel moteur est actuellement utilisé, et vous allez faire vos tests, vous allez forcer tel ou tel moteur pour voir si ça corrige votre problème. Il y a un autre outil qui est sympa, donc on vous a parlé, qui est Super Preview. Donc là, je vous montre la version payante, mais ce que je vais vous montrer, vous l'aurez dans la version gratuite téléchargeable sur nos sites. Vous choisissez au début en fait votre camp, donc vous voulez tester IE6 contre Internet Explorer 8 par exemple, et vous allez tester l'URL. Donc je vais retaper amazon.com. Il va finalement rendre la page dans une résolution particulière à travers un bitmap qui est décoré de métadonnées. Et là, ce qu'on voit, là, je suis en surimpression, c'est assez pratique, parce que...
Est-ce que c'est moi ou c'est mes yeux?
Alors, il y a un léger flou, je ne sais pas si tu observes bien. Un léger flou. Il se trouve que leur page est quand même pas mal fichue, c'est-à-dire qu'on se rend compte là entre un IE6 et un IE8, donc ils ont pas mal bossé sur la compatibilité de leur site, mais on voit là, grâce à cette indication visuelle, que dans IE6, par rapport au top left, on a tant de pixels de décalage à 687 et 162, et qu'IE8 se comporte légèrement différent à un moment avec 690 et 161. On voit la taille des éléments aussi, comment ils sont rendus. Donc ça vous permet de rapidement identifier sur des sites, si vous voyez carrément des petites zones de fou, là c'est pas très grave, donc c'est quasiment le même rendu, donc tant mieux, mais si vous avez des gros décalages, vous allez pouvoir le voir tout de suite. Et ce qui est sympa également, c'est que non seulement j'ai cette indication visuelle sur la taille en pixels, mais je vais également voir la classe de l'élément actuellement sélectionné qui est référence dans la feuille de style
de
la classe CSS qui est utilisée derrière. Donc une fois que j'ai vu c'était le type de classe qui est référencé dans ma feuille de style, je vais bosser sur ma feuille de style directement et boum, normalement ça se propage, c'est le principe, je corrige l'ensemble. Donc cet outil plaît beaucoup aux gens.
Donc tu peux les mettre donc soit côte à côte, les deux rendus, soit les mettre en surimpression, auquel cas les zones de flou sont les zones qui ne sont pas traitées de la même façon par les moteurs de rendu.
Exactement, soit on le voit côte à côte, l'un au-dessus de l'autre, ou en overlay, qui permet de voir cet effet 3D. Donc ça supporte la lunette de Panasonic. Non, je rigole, c'est pas du tout un effet 3D, mais ça donne cette impression-là.
C'est pas sponsorisé, toi, un petit peu là.
Si, si, ouais, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a deux défauts à ce truc-là. Je vous le dis tout de suite parce que les gens nous posaient la question. Vous ne pouvez pas passer une authentification par formulaire, par exemple, puisque là, vous ne pouvez pas piloter ce qui se passe. Vous tapez une URL, il la rend. Il compare les deux rendus, donc ça peut être problématique. Par ailleurs, vous ne pouvez pas automatiser la comparaison sur l'ensemble de vos pages, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir crawler tout votre site web et faire une remontée de toutes les pages. Bon, ça, c'est pas très grave, parce que la feuille de style étant normalement appliquée globalement sur une grosse partie du site, vous la corrigez à un endroit et automatiquement, ça devrait se répartir un peu partout.
Effectivement, il est bon de noter qu'on ne peut pas, pas les sites d'authentification, enfin pas avec l'authentification par formulaire, et que effectivement on fait ça page par page, on peut penser que c'est un peu stupide, mais en fait finalement une fois qu'on sait qu'une feuille de style s'applique à tout le monde, ça peut être logique.
Le principe de la feuille de style, elle dérive partout sur tous les éléments. Donc ça conclut la fin de ce module. Je vous propose qu'on se retrouve sur le module suivant.
Le module suivant qui sera consacré en fait à comment on gère un site qui est public, qu'on soit soit le fournisseur du site public sur Internet, soit le consommateur du site public sur Internet. Donc on se retrouve dans cette quatrième partie pour discuter du sujet.
À tout de suite.